Luliano se lève sans un bruit et rassemble quelques affaires dans un baluchon. À pas feutrés, il sort de sa chambre, passe par la cuisine pour y prendre un quignon de pain et une grappe de raisin, puis quitte l'auberge. Il sait qu'il ne reviendra pas de sitôt, que sa mère se réveillera inquiète de ne pas voir son fils et qu'elle aura du chagrin, mais il ne se retourne pas, s'évertuant à nier ce pincement au cœur qui surgit. L'étrangeté provoquée par la lune rend le chemin habituel différent. Les arbres, que le jeune homme croyait connaître parfaitement, ont une toute autre allure. Toutefois, la mémoire infaillible qu'il a de leur odeur délicieusement fruitée ne lui laisse aucun doute. Il s'agit bien de sa chère et tendre mère des oliviers, cette forêt qu'il affectionne tant et qu'il s'apprête à abandonner. Ralentissant soudain son rythme jusqu'ici soutenu, Luliano s'attarde sur une écorce et la recueille au creux de sa main. Soudain, le jeune homme entend un bruissement. Il se fige, tâchant de trouver l'origine du son. À sa gauche, un olivier agite ses feuilles et voit apparaître sur sa ramure des ondes argentées. Un autre arbre imite alors son voisin, puis un autre, puis encore un autre, tant et si bien que c'est maintenant toute la forêt qui est en mouvement. « La forêt chante sous la lune, » pense Lulianos. « C'est un encouragement, une invitation au départ, » se réjouit-il ému. Le cœur empli d'allégresse, il reprend sa course, puis, quelques minutes plus tard, bondit à travers les derniers arbres pour finir sur la jetée. Itéa dort encore, et le bateau aussi, bercé par les flots et nimbé par la lune. Le héros en herbe se fige un instant devant cette scène magique. Un pont vers une nouvelle vie. Luliano s'approche doucement et saisit l'échelle de coupée. Il pose un pied, puis l'autre, agrippe avec force les barreaux. Le voilà sur l'embarcation. Il retient son souffle. Un bruit et tous ses rêves de voyage s'évanouiraient. Son cœur bat la chamade de telle manière que le garçon a peur que cela ne réveille l'équipage. Impressionné par la stabilité du navire rond, il explore les lieux, tâchant d'éviter les pièces d'accastillage qui jonchent le sol afin de ne pas tomber. Dans un coin, Lulianos aperçoit de nombreux coffres. L'audace, son éternelle compagne, le pousse alors à tenter l'ouverture de l'un d'entre eux. Habile de ses doigts, rompu à l'exercice, l'adolescent se remémore l'enseignement qu'il a reçu autrefois lorsqu'il fréquentait un camarade sympathique et hâbleur surnommé Autolycos. Voleur de talent, celui-ci parvenait à ouvrir toutes les portes et avait tenu à transmettre ce savoir-faire à son ami. Aucune serrure, depuis, ne résiste à Lulianos. Le mécanisme cède. À l'intérieur du coffre, brillent des plateaux d'argent, du verre soufflé, des bijoux précieux et de multiples statuettes dorées. Luliano s'est ébloui et sourit malgré lui, enchanté. Mais de quelle contrée tout cela peut-il bien venir? Un peu plus loin, sur le pont, il remarque des totems en bois, entassés les uns sur les autres et à côté d'eux, une grande statue en basalte représentant une divinité féminine. Il reconnaît alors Héra, sceptre à la main, sa couronne d'or délicatement ciselée surmontant son visage à la perfection olympienne et son long voile épousant sa silhouette royale. Cette rencontre le perturbe sans qu'il sache vraiment pourquoi. Soudain, un hoquet rompt le silence. L'adolescent se retourne en un éclair et aperçoit deux hommes qui titubent, deux marins, ivres, de retour d'une taverne du port. Lulianos devient blême et regarde de tous côtés, prêt à saisir la moindre opportunité pour se dissimuler. Un rouleau de cordes. Faute de mieux, il plonge brusquement dans ce trou de souris et disparaît. Les deux individus, un petit brun barbu et un grand blond dégingandé, viennent d'arriver sur le pont.
Chut ! Dit le premier. Tu vas réveiller tout le monde !
Dire chut aussi fort, c'est tout de même un comble, pense Lulianos, recroquevillé au creux de sa cachette.
« Rabat, joie !»
répond le grand blond en chancelant.
« Chut, te dis-je »
« J'ai compris !»
réplique son compère.
« Viens par là, on se refait une partie !»
ordonne le plus petit. Par là, le sang de Luliano se glace. Ils viennent vers lui. Priant les dieux pour ne pas être découvert, il se contorsionne un peu plus dans le cordage. À travers celui-ci, il parvient miraculeusement à observer la scène. Les marins sont assis par terre et jouent aux dés, sans se préoccuper d'autre chose. Ouf ! Lulianos remarque vite que la beuverie continue. Lorsque l'un lance les dés, l'autre engloutit le contenu de l'une de ses nombreuses gourdes avant d'être interrompu, son tour venu. Une partie, puis une autre, puis une suivante. Peu à peu, le sommeil rattrape Lulianos. Son corps se rappelle à lui, il a si peu dormi. Vaincu par ses émotions, résigné, il se love dans son nid improvisé et laisse enfin ses yeux en amande se fermer. Au-dessus de lui, la statue d'Héra trône fièrement. Au petit matin, la mère de Lulianos s'agite entre la cuisine et la salle à manger. Le petit déjeuner doit être parfait. Lorsque son hôte arrive dans la pièce, Hélène a les joues pivoines, son chignon s'est effondré et une cascade de boucles lui tombe sur l'épaule gauche. « Excusez ma tenue, » dit-elle en essuyant ses mains enfarinées sur son tablier avant de le prier de s'installer à table. « J'aurais eu grand plaisir à m'asseoir, mais je ne peux malheureusement pas m'attarder. Puis-je vous demander un petit quelque chose pour le chemin ? Rien de trop compliqué, du pain suffira amplement. » La jolie blonde s'exécute et s'en va chercher de quoi rassasier Diodore. « Et voilà, vous y trouverez de quoi vous nourrir. » Elle lui tend une besace bien remplie. « Merci, Hélène, » répond-il en passant brièvement le contenu de son sac en revue. Derrière une généreuse miche de pain, le grand homme aperçoit une petite gourde et, dans un élan de curiosité, l'ouvre pour deviner ce qu'elle renferme. Une odeur de fleurs et de raisins envahit alors ses narines. Diodore se dirige maintenant vers la porte, accompagné d'Hélène. Avant de reprendre la route, le voyageur pose ses yeux attendris sur celle qu'il a si bien accueillie. Lulianos n'a pas tenu parole et n'est pas venu me réveiller, pense-t-il en s'éloignant de l'auberge. L'inconstance de la jeunesse. Fort bref, cette préoccupation est balayée par la plus importante de toutes, la bibliothèque d'Alexandrie, et le travail titanesque qui l'attend. L'urgence de sa mission lui revient de plein fouet et le pousse à doubler le pas. Mais puisqu'il faut bien de l'énergie pour ce faire, le vieil homme prend tout de même le temps, avant que de courir, de piocher dans sa sacoche. Il en retire un bout de fromage et arrose celui-ci de quelques gouttes d'huile d'olive contenues dans un flacon. Un délice dont il n'aurait pas voulu se passer. Reconnaissant envers cette nature nourricière, il jette un regard à la cime des arbres fruitiers, sourit et se remet en route. Diodore traverse maintenant la mer des oliviers à grande vitesse. Soudain, une mouette passe au-dessus de sa tête tandis que, en bon éclaireur, un vent frais rapporte des embruns. La mer est proche. L'oiseau rieur poursuit son vol, alternant grands battements d'ailes et brefs instants planés, scrutant l'horizon. Le voilà à Itéa, déterminé à trouver de quoi se sustenter et de quoi nourrir ses petits. Après un souple atterrissage, la mouette parcourt les rues colorées et fort peuplées du village avec l'aplomb caractéristique de son espèce, prête à saisir la moindre opportunité sans l'ombre d'un scrupule. Au bout d'une petite heure d'exploration entre les maisons, le volatile n'a obtenu que quelques miettes de pain. Modique butin. Contrarié, l'animal quitte finalement Itéa pour rejoindre le large et retrouver sa progéniture affamée sur le flanc d'une falaise. Chemin faisant, alors qu'elle survole l'étendue azurée, la mouette aperçoit un maigre point noir à la surface de la mer. Et voici qu'elle plonge déjà vers son nouveau but, à la vitesse de l'éclair. Sur le bateau, des marins se démènent. Il faut tenir le cap. Soudain, un oiseau jaillit entre la voile de lin blanc et le mât pour se poser prestement sur le pont. A priori, rien n'a grignoté par ici, ni par là. Bien décidée à dérober quelque chose, la mouette déploie ses ailes pour explorer l'embarcation et se juche sur un rouleau de corde. Au creux de celui-ci se trouve un endormi au ronflement discret.